Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Priscille Lafitte.
Rencontre avec Patrick Burgan, compositeur et lauréat du prix Pierre Cardin en 1995. Marie. Bonjour Patrick Burgan.
Bonjour.
Nous venons d'écouter un extrait d'Odi Cholum, composé en 1998. Vous êtes présent dans nos studios, merci beaucoup. Vous êtes compositeur mondialement connu et vous êtes lauréat du prix Pierre Cardin en 95, résident à la Casa de Velázquez à Madrid de 92 à 94 et lauréat en 96 du prix de la Fondation Simone Echino del Dúcar de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on va peut-être revenir sur votre parcours avant de commenter plusieurs œuvres que nous allons écouter. Vous avez suivi un parcours universitaire en même temps qu'une formation de composition et d'analyse au Conservatoire National de Paris. Et au CNSM, vous avez côtoyé, suivi les cours d'Ivo Malek et de Gérard Griset. Et puis à l'IRCAM, vous avez aussi côtoyé Tristan Murail et Philippe Manoury. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces compositeurs? Vous dites que vous êtes un compositeur, vous vous situez dans une certaine indépendance d'école. Est-ce que tout de même vous êtes à la suite de quelqu'un?
Je ne pense pas. On aurait toujours, évidemment, on aimerait n'être à la suite de personne. Mais évidemment, on n'invente rien. On ne fait que continuer et transformer tout ce qui s'est fait. Je pense que la personnalité seule d'un artiste, d'un compositeur, d'un peintre, etc., suffit à créer une certaine originalité. Ensuite, c'est la nécessité elle-même des œuvres, finalement, qui détermine la pertinence du discours musical du compositeur. Mais à propos des personnes que j'ai côtoyées au Conservatoire de Paris, ils m'ont beaucoup apporté dans le sens où finalement ils m'ont permis de connaître leur personnalité et un compositeur apprend beaucoup finalement en découvrant la personnalité des autres compositeurs. Alors quand on a la chance de côtoyer de près Ivo Malek ou Tristan Murail, effectivement c'est plus finalement leur personnalité qui transpire à travers leurs paroles, si vous voulez, qui nous sert, que leurs propos directs, peut-être, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut voir derrière les lignes, il faut voir ce qu'ils sont derrière eux-mêmes. Quand ils disent quelque chose, finalement, le plus important, ce n'est peut-être pas concrètement ce qu'ils disent, mais finalement, ce qui transparaît d'eux à travers ce qu'ils disent. Et c'est là qu'on va peut-être chercher quelque chose de plus loin, quelque chose qui peut nous servir en tant que compositeur.
Est-ce que, quand même, Ivo Malek ne vous a pas transmis un certain amour, une attirance pour la voix?
pas particulièrement pour la voix, on va dire pour le son lui-même, parce qu'Yvon Malek était quand même quelqu'un voilà, qui faisait partie du GRM, qui avait beaucoup travaillé sur l'électroacoustique et le souci du son, évidemment. Un compositeur devrait être toujours un soucieux du son, mais on construit avec des grammaires musicales plus ou moins différentes, avec toujours ces disputes permanentes entre tonal, non tonal. On ne finit plus par penser qu'à ça. C'est bien dommage parce que finalement, certains compositeurs s'interdisent tout rapport à la tonalité, alors que ça pourrait, dans certains cas, être pertinent. D'autres qui, finalement, aiment plutôt l'univers tonal s'interdisent tout rapport au chromatisme ou au sérialisme ou je ne sais. Et c'est dommage aussi dans certains cas. Moi, je crois qu'en fait, les œuvres elles-mêmes justifient leurs propres matériaux et il ne faut pas avoir peur d'utiliser tout ce qui est dans notre possession. Donc Yvon Malek m'a donné évidemment le goût du son, de l'introspection du son. Je dois avouer aussi que, passant par le Conservatoire de Paris, même si c'est avéré ensuite que l'électroacoustique n'était pas mon domaine de prédilection, loin de là, mais l'apprentissage de l'électroacoustique m'a permis d'entendre le son au microscope. Et c'est vrai qu'ensuite, vous tournez votre clé dans la serrure et que vous entendez toutes les miroitements sonores, parce qu'en fait, votre oreille, elle s'ouvre, elle devient un véritable microscope, pas seulement sur l'univers des fréquences, du discours général, mais sur le son. Vous ne pouvez plus entendre un frigo, un marteau-piqueur, même un raclement de sandales sur le trottoir, sans entendre toutes les définitions internes du son. Je crois que c'est important pour un compositeur, bien sûr, d'avoir tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille sur le côté granulaire du son qu'on va s'empêcher de déployer une superbe mélodie pour une voix. Vous voyez, je crois que c'est quand même dommage. Beaucoup de compositeurs se brident justement en s'interdisant certaines choses.
Donc Patrick Burgand, inclassable ?
Non, je ne sais pas. En tout cas, ça n'appartient pas au compositeur lui-même d'essayer de se classer, surtout pas.
Alors, votre œuvre a connu un tournant en 1994. C'est vous-même qui le dites, avec la Puerta de la Luz, une œuvre pour ensemble vocal a cappella. Est-ce que c'est l'aboutissement de votre travail à la Casa de Velázquez de 92 à 94? Ça vient juste après? Ça a été maturé là-bas?
Oui, disons que c'était le choix des textes espagnols. C'était un petit peu pour honorer, on va dire, ma présence en Espagne. Ce cadeau extraordinaire que fait l'État français de permettre à un compositeur d'être payé pendant 2 ans sans préoccupation autre que d'écrire sa musique. Alors j'ai découvert évidemment la poésie de Lorca, extraordinaire poésie, Machado aussi, que j'ai utilisé dans la Puerta de la Luz. Et j'ai pu travailler aussi avec l'ensemble Musica 13, qui chante beaucoup la musique d'Oana, donc est très habituée à la langue espagnole. Ils étaient venus pour l'occasion, ils ont créé cette œuvre. On a continué à travailler beaucoup ensemble. Et je dois avouer que, en quoi j'ai le sentiment que cette œuvre est une charnière? C'est pareil, un compositeur peut-être ne doit pas trop réfléchir sur les charnières, parce que parfois elles sont imperceptibles pour lui. Hein. Mais là, je l'ai senti dans une mesure où j'ai toujours eu envie de laisser aller un certain lyrisme, un lyrisme même parfois assez exacerbé, si vous voulez, et sans limitation justement de langage qui bride parfois ce lyrisme, hein, un lyrisme qu'il peut laisser déployer sur une harmonie tonale, une ligne bon très repérable, on va dire, et des choses absolument complètement interdites, même pour Yvon Malek. Nous sommes beaucoup disputés à l'époque et je dois avouer que passant par lui, c'était bien, parce que moi j'ai quand même une formation très classique au niveau de l'écriture, si vous voulez, beaucoup de classes de contrepoint, de fugue, d'harmonie, etc. Donc j'avais un regard assez méfiant sur la musique dite contemporaine. Le grand choc, pour finir de parler de ma formation, ça a été Varèse. Quand j'ai entendu Arcana de Varèse, j'avoue que là, d'un coup, j'ai eu un mouvement de recul. Je me suis dit, si on a écrit ça en 1926, ce type-là avait compris très tôt qu'on peut faire des tas de choses, évidemment, sans avoir besoin du matériau, un peu sécurisant, justement, du système tonal, même s'il est extrêmement élargi, hein, comme Ravel. Mais Varèse, il s'est vraiment passé quelque chose. Je me suis dit, il y a des choses à faire là. Donc pour faire ces choses, il n'y avait qu'une solution, c'était d'aller voir les gens eux-mêmes. Quoi. Et donc de rentrer dans la classe d'Yvon Malek au conservatoire, c'était la douche qu'il me fallait. Parce que j'avais quelqu'un d'un coup qui me parlait autre chose, qui me parlait plus loin que Varèse. Et qui me faisait réfléchir sur le son, sur le chromatisme. Et avec lui, il n'était pas question de tonalité, bien sûr. Donc cette douche prise, on va dire, mes affrontements avec Yvon Malek étaient toujours, enfin ça aurait été très sympathique, hein, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais les affrontements venaient du fait que j'avais beaucoup de mal à brider le lyrisme que je portais en moi et le besoin parfois justement de revenir à ce langage qu'on appelle langage tonal, sans utiliser les fonctions. Hein. Et j'ai eu l'impression, après avec les personnalités dont vous avez parlé, Tristan Murail, etc., j'ai pu finalement retourner, prendre tout ce qu'ils avaient à me dire au niveau de cette évolution du langage, mais petit à petit, en m'auto-censurant de moins en moins. Et jusqu'à la Puerta de la Luz, je m'auto-censurais un petit peu quand même. C'est-à-dire, il y avait des choses que je m'interdisais. Et puis là, j'ai pensé qu'il était temps de ne plus se censurer. Et donc, de se laisser aller, vraiment. Maintenant que je me sentais assez fort, si vous voulez, pour avoir un langage débarrassé, finalement, de la peur du nouveau. Un langage qui avait quand même suffisamment intégré les acquis récents. Je pouvais davantage inventer sans m'interdire quoi que ce soit.
Et une démarche qui a été reconnue et saluée.
Oui, je l'espère.
Nous allons écouter un extrait de Puerta de la Luz.
Thank you.
Un extrait de La Puerta de la Luz, composé en 94. De quand date votre attirance pour la voix, Patrick Burgan ?
Sans doute depuis toujours. Moi, j'ai chanté dans un chœur quand j'étais très jeune et j'ai toujours eu une attirance d'abord peut-être informulée. Et puis, de toute façon, quand je suis arrivé au conservatoire, la deuxième œuvre que j'ai écrite, la première, c'était pour cordes, imposée par Malek, parce qu'il disait que les cordes, c'était extraordinaire pour trouver des matériaux avec tous les mots de jeu possibles, etc. Mais par contre, la deuxième œuvre que j'ai écrite, c'était pour deux voix de femmes et ensemble instrumental. C'est surtout le rapport au texte dont j'avais besoin. Et puis dans ma jeunesse, j'avais écrit beaucoup de pièces pour chœur, des pièces pour voix, etc. Non, je ne peux pas donner une date. J'ai toujours adoré la voix comme instrument extraordinaire, quoi, qui fait passer toutes les émotions, et puis porteur d'un texte, donc avec un relief rythmique, déjà dans les mots du texte lui-même.
Relief rythmique et relief de sens.
Absolument. Le sens et le rythme, c'est-à-dire le texte vraiment apporte lui-même sa propre musique. Il faut jouer avec ça.
Une de vos spécificités, c'est que justement vous ne jouez pas seulement avec les sonorités, avec les phonèmes, comme ça a été longtemps quand même en vogue. Vous appliquez quand même à servir le texte. Vous avez un rapport à la poésie assez particulier. Vous en lisez beaucoup, j'imagine. Comment est-ce que vous choisissez vos textes? Vous choisissez des textes de Verlaine, de Rimbaud, de Lamartine, d'Éluard. Beaucoup de textes romantiques.
Oui, c'est
mais
vrai.
Aussi des textes contemporains.
Moi aussi.
Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ces textes qui fasse que vous les choisissiez pour les porter en musique?
Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que le texte soit très fort, très chargé d'images. Même si ce sont des images abstraites, il n'y a pas besoin d'images parfois très concrètes. Ça peut être une image, une idée, si vous voulez, mais qui soit très très forte et qui emporte avec elle un sentiment expressif qui est déjà un moteur musical. Et puis, il peut, pour reparler de cette œuvre, la Puerta de la Luz, on a entendu la dernière pièce, hein, la petite chanson de l'enfant qui n'est pas né. Mais dans la première pièce, par exemple, il y avait les images très fortes des gitans qui cavalent pour essayer de sauver un petit enfant qui va se faire emporter par la lune. Alors déjà, rien que dans ce que je viens de dire, il y a la lune qui vient chercher par la main un enfant dans une forge. L'enfant qui crie, va-t'en, va-t'en, lune. Et les cavaliers qui cavalent, qui veulent sauver le petit. Et donc, Lorca dit, tocando el tambor del llano, c'est-à-dire les chevaux, il frappe le tambour de la plaine, tocando el tambor del llano, tocando el tambor, tocando el tambor, tocando el tambor. Vous voyez que dans le mot tocando el tambor del llano, dans les allitérations poétiques, il y a déjà finalement la source du matériau musical. Et donc, je ne suis pas. Je peux le faire parfois, hein, mais ça dépend du contexte, c'est difficile de donner des généralités. Je n'aime pas triturer un poème, je n'aime pas le couper en morceaux. Il peut arriver que je le fasse pour une raison ou une autre, hein, il faudrait placer ça dans le contexte, mais en général, j'aime à respecter le poème. Donc, ce tocando el tambor del llano, je le fais passer dans toutes les 12 voix de l'ensemble vocal, pour justement, par ce biais des imitations, à force d'avoir des tocando el tambor, des tocando el tambor, on entend les sabots du cheval qui galope, vous voyez. Donc, sans toucher au texte, mais évidemment, en répétant cette phrase, on a un effet sonore qui est presque de l'ordre du travail phonétique pur, si vous voulez.
Alors on disait que La Puerta de la Luz est un tournant un peu pour vos compositions. On voit là effectivement que vous êtes absolument, enfin vous revendiquez d'une musique tonale, hein, il n'y a pas de... Vous ne faites plus de doute là-dessus.
Et je me revendique pas d'une musique tonale, non. C'est que en fait je n'hésite pas à l'utiliser quand l'œuvre le nécessite, c'est plutôt ça. Je ne revendique rien du tout.
Et puis, on peut aussi noter une utilisation du sérialisme aussi.
Oui, bien sûr, mais enfin là, il faut vraiment le savoir. Parce que je l'utilise quand besoin est. Si vous voulez, la pièce qu'on a écoutée au début, c'est la petite chanson de l'enfant qui n'est pas né. C'est-à-dire un enfant qui ne naîtra jamais. Alors, selon ma conception, l'œuvre a été comprise de façon différente. Moi, je pense, quand je lis Lorca, que c'est un enfant qui est dans les limbes. Enfin, un enfant, c'est une âme, si vous voulez, qui n'a pas été concrétisé. C'est-à-dire les deux cellules ne se sont pas rencontrées. Donc, il n'a pas eu la chance de se concrétiser dans une cellule humaine, dans le ventre d'une femme. Donc, c'est une âme, une petite âme qui dit « Vous m'avez laissé, vous m'avez abandonné et moi, je n'ai pas de bras. Sans bras, comment est-ce que je vais pouvoir pousser la porte de la lumière? Je n'existerai jamais. Ma mère a déjà les cheveux blancs. » Il se plaint. Il est dans les nuages, il est dans le cosmos, il est quelque part. Il dit « Vous m'avez oublié. » Il faut qu'il attende encore. Alors que certaines femmes, je me souviens, Espagne l'avait pris de façon très très difficile, enfin, très dure pour elle, parce qu'elle, elle voyait plutôt une fausse couche. C'est-à-dire, elle voyait plutôt un enfant qui n'avait pas pu aller au terme, si vous voulez. Alors, bon, les deux acceptions sont possibles. Hein. Je pense quand même que Lorca j'imagine, pensait plutôt comme ça à une âme qui était avant même la conception, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, cet enfant n'est pas né, qui soit mort finalement, hein, en couche, ou qu'il ne soit pas né, il y a un problème de non-identité, si vous voulez. Et il n'arrive pas à trouver son identité, donc il n'est pas stable. Parce que dans l'harmonie tonale, qui repose bon, sur la résonance naturelle, hein, lorsqu'on entend une quinte, une octave et une quinte, on se sent en phase avec l'harmonie, la résonance naturelle du son. Donc fatalement, on est installé.
On est stable.
On est stable. Alors que dès que vous faites vibrer les 12 demi-tons de la gamme chromatique les uns avec les autres, ou des micro-intervalles, vous êtes déphasé par rapport à la résonance. Donc vous n'êtes pas stable. Et c'est pour ça qu'au début, le petit enfant, c'est une voix d'alto très grave, parce qu'il est hybride. Il n'est ni femme, ni homme. Hein. Et il est traité avec une série de 12 sons, justement. Et alors bon, de manière assez libre, effectivement, mais c'est un traitement sériel. Et donc, fatalement, on n'est pas bien, on n'est pas stable. C'est une plainte extrêmement douloureuse, très, très calme, évidemment, sans violence, mais très douloureuse. Et surtout, surtout, très inconfortable. Parce que lui, il n'a pas de chaise pour s'asseoir. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'existe pas. Et ensuite, le flottement qu'il a, qui a été pris justement par certaines femmes comme peut-être le liquide amniotique du fœtus, si vous voulez, qui baigne comme ça et qui ne va pas arriver à terme, c'est justement toute cette plage avec cette quinte, cette plage sereine, avec une harmonie très élargie, mais qui sonne un peu tonale, et sur laquelle va se déployer toute la complainte de l'enfant ensuite qui va être répercutée en imitation, avec toutes ces voix qui tournent, et ma mère a les cheveux blancs, etc. Voilà. Donc il y a les deux univers, c'est pour ça que quand je disais que je ne revendiquais rien, mais j'utilise les choses. Donc je peux tout à fait, dans un contexte tonal, utiliser des matériaux sériels. Et à mon avis, il n'y a pas du tout de contradiction.
Alors on va continuer à parler de votre rapport entre texte et chant, en écoutant Le plaisir originel sur un poème d'Edmond Haraucourt, composé en 1999.
Thank you.
Alors ici, Patrick Burgan, il s'agit d'un texte très érotique au départ, pour ne pas dire pornographique. Et l'utilisation que vous en faites est assez évaporée.
Oui, j'ai trouvé ce texte intéressant parce que justement, il démarre de manière très sentencieuse. On est dans l'Éden, on sent planer la force universelle de Dieu. Vraiment, tout est extrêmement sérieux. Ce sont des alexandrins. Et puis, on s'aperçoit petit à petit que déjà, Adam, il se réveille en prenant une pomme sur la tête. Ève, elle est impatientée. Et à côté, elle le secoue pour qu'il se réveille. On sent qu'il y a quelque chose d'ironique. Enfin, ça, c'est une satire là derrière. Et puis, quand on découvre petit à petit que finalement, il ne se connaissent pas, ni l'homme ni la femme, et qu'ils vont se découvrir, anatomiquement d'abord, et ensuite qu'ils vont faire le premier acte amoureux de l'histoire, mais tout ça avec des paroles tellement crues au niveau de leur découverte réciproque de leur anatomie, au niveau de l'acte amoureux, que bon, d'aucuns pourraient en être choqués. Et d'ailleurs, à l'époque, ça a été publié sous le manteau, hein. De toute façon, c'était un texte licencieux. Mais Adam et Ève, ce sont deux enfants, ce sont les enfants de l'humanité, ce sont deux enfants très innocents, il n'y a aucune perversité là-dedans. Et j'ai trouvé très, très, très beau, finalement, ce jeu entre langage très cru et puis finalement une innocence. Et j'ai voulu le traiter avec beaucoup de délicatesse, un érotisme très fin, si vous voulez, avec des paroles parfois quand même qui sont assez, assez crues.
Autre forme d'érotisme, les jeux de femmes sur des poèmes de Verlaine. Tout cela vous mène, Patrick Burgan, à un travail sur un travail plus phénoménal encore, celui de l'opéra. Oui. Vous avez commencé par travailler avec Marc Blanchet sur une œuvre qui s'intitule « La source des images » ou « Narcisse exaucé », créée en 2000 par l'ensemble Musica 13. Marc Blanchet, vous l'avez rencontré à la Casa de Velázquez, c'est
non, pas vraiment. Non il a été à la Casa de Velázquez, effectivement, il a été pris en tant que boursier parce que mon projet, la Casa de Velázquez, c'était la source des images, justement. Mais on s'était rencontré avant. En fait, il m'avait écrit parce qu'il avait entendu ma musique, donc on avait bien sympathisé. Il m'avait envoyé de ses textes poétiques et j'avais trouvé que c'était une poésie. C'était la poésie d'aujourd'hui que j'attendais un petit peu. C'est parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de poètes contemporains. Marc Blanchet m'en a fait lire beaucoup et j'avoue que je ne trouve pas vraiment la force des images que je peux trouver dans d'autres poésies. Celle de Marc Blanchet, il doit y avoir d'autres poètes, effectivement, mais toute une poésie qui correspond exactement à ce que j'attends.
Et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il écrit des choses spécialement pour vous?
Il a écrit, effectivement, une pièce pour moi qui s'appelle Soleil. Disons que le projet musical faisait que l'œuvre était commandée musicalement avant qu'il écrive les textes. Donc, il a écrit les textes pour l'œuvre. C'est Soleil, une pièce pour voix de femme qui a été créée par le chœur Microcosmos. Que dirige Loïc Pierre.
Et là, le texte précédait la musique?
Toujours. Mais disons toujours. Que j'avais une vision très solaire. D'ailleurs, le titre Soleil, c'est moi. Je pense que j'ai dû lui dire, il me faut un texte où il y ait soleil qui crie, etc. Et puis, le premier poème, je lui ai donné des images. Je lui ai dit que je voulais vraiment... Parce que c'était destiné à un cœur de jeune fille. Alors, je voulais des images qui parlent à ces jeunes filles aussi. Maintenant, ce sont des adultes, hein, dans le cœur Microcosmos. Mais à l'époque, voilà, je voulais la brise dans les cheveux d'une femme, etc. Vous voyez, donc, il m'a écrit un premier poème exactement comme ça. Ensuite, le deuxième, des soleils qui explosent dans tous les sens. Et puis, un dernier, beaucoup plus nostalgique, sur la lune, sur des choses qui s'envolent. Alors, il les a écrits à la demande, en fonction des images, encore une fois, que je lui demandais d'inclure dans ses poèmes. Il a su trouver les mots pour ça.
Vous-même, vous écrivez?
Oui, j'avoue que j'aimerais. Moi, je me sens sans doute pas le talent suffisant, parce qu'il y a des écrivains extraordinaires, mais disons que pour moi, en tout cas, j'écris, oui, parce que ça me fait plaisir. Et puis le deuxième livret, le livret de mon deuxième opéra.
C'est vous qui l'avez écrit, le livret de Peter Pan.
Voilà, j'ai écrit le livret. Enfin, l'histoire était toute faite. Hein, parce que la première histoire, Narcisse, c'est moi qui ai construit l'histoire, si vous voulez. J'ai demandé à Marc Blanchet d'articuler le texte. Parce que lui est poète, il me fallait un texte très poétique, nimbé justement d'images particulières. Mais bon, j'avais une vision tellement précise que je l'ai embêté, le pauvre. Ça a été, je crois, pas douloureux, mais bon. Ça a été vraiment un travail dans lequel parfois j'imposais un peu des choses, etc. Je me suis promis en tout cas qu'on retravaillera sans doute ensemble pour l'opéra, mais l'opéra que j'allais faire après, je me suis dit que je ferais moi le livret parce que j'étais vraiment trop casse-pieds pour les écrivains. Mais Peter Pan, je jouais sur du velours, hein, j'ai fait le livret de l'opéra, mais le conte est déjà tellement extraordinaire, tout est fait au niveau narratif, si vous voulez. Voilà. Je me suis contenté de mettre des mots sur cette histoire extraordinaire.
Donc Peter Pan, d'après l'œuvre de James Matthew Barry, qui a été créé par le Théâtre du Châtelet, au Théâtre Zingaro d'Aubervilliers, avec l'Orchestre du CNR de Paris, les chœurs...
C'était pas l'Orchestre du CNR de Paris, finalement. Oui, c'est vrai que ça a été annoncé comme ça, très préalablement, mais en fait, c'était un orchestre composé pour l'occasion, avec dedans beaucoup de musiciens de l'opéra.
Vous êtes beaucoup amusé, non, pour cette pièce?
Oui, je m'amuse. Enfin, c'est une façon de parler, ça dépend, amuseux, ça.
La pièce est amusante, en tout cas.
Le Peter Pan?
Oui.
Ah oui, oui, sans doute, pas seulement, parce que c'est une pièce, pas seulement.
Disons... Pas seulement pour enfants, c'est ça?
Ah non, absolument pas, c'est pas du tout un opéra pour enfants. Justement, il y a un petit hiatus là. Quand on parle de Peter Pan, déjà les gens ne connaissent pas en général, on pense que c'est pour les enfants, on connaît le dessin animé de Walt Disney, on connaît pas souvent le conte de James Matthew Barry. C'est très difficile de parler de Peter Pan parce que c'est un abîme existentiel. Alors ça, tout de suite, ça fait très sérieux. Évidemment, il faut le prendre au second degré, troisième, quatrième. Au premier plan, qu'est-ce qu'on a? On a une aventure extraordinaire avec des Indiens, des pirates, des enfants. Ça castagne, il y a des batailles, des couleurs, ça vole dans les airs. Il y a tout un imaginaire extraordinaire. Il y est ça dans l'opéra. Évidemment, les enfants, dans le public, il y avait des enfants de 3, 4, 5 ans qui ont été émerveillés de voir toute cette frénésie d'action, parce que la mise en scène est spectaculaire. Moi, j'étais ravi de travailler avec Isabelle Parcio, qui a fait vraiment une mise en scène exceptionnelle, quoi, parce que je voulais de l'action. Pendant 2 heures, sans entracte, C'est intense au niveau action. Mais ça ne pétarade pas sans arrêt, évidemment. Il y a des coupures parce qu'il y a trois mondes simultanés. Il y a trois époques différentes. Et on comprend que finalement, cette histoire, elle a peut-être été inventée entièrement par quelqu'un qui souffre de ne peut-être pas l'avoir vécue. Parce que c'est la vieille madame, c'est mamie Wendy. Wendy qui est âgée maintenant, qui raconte ça à sa petite fille. Et donc, c'est pour ça que je l'ai sous-titré d'ailleurs. Je l'ai appelé Peter Pan ou la véritable histoire de Wendy Moira Angela Darling, la véritable parce qu'elle a peut-être tout inventé. D'ailleurs, souvent, elle se trompe. On voit des choses sur la scène et sa petite fille la rectifie. Ah oh mince, oui, elle est gênée, etc. Parce qu'elle a menti, elle s'est trompée, elle dit que c'est sa mémoire. Et du coup, ça repart en arrière, on revoit la scène différemment parce qu'elle la raconte d'une autre façon. Et puis, c'est là qu'on s'aperçoit la jeunesse, comment garder l'éternelle jeunesse sinon en étant mort, finalement. Le pays imaginaire, c'est la mort. C'est ça le message de Barry. Mais c'est un message très sous-jacent. C'est un grand poème philosophique, Peter Pan. Il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai essayé dans mon opéra de faire passer le même message, si vous voulez, mais en gardant l'aspect ludique, l'aspect conte, l'aspect pour enfants. C'est un opéra pour adultes, bien sûr, avec des solistes adultes, mais que les enfants peuvent voir parce qu'il y a tous les niveaux de lecture. Donc quand vous dites que je me suis amusé, c'est vrai, on s'amuse toujours un peu quand on écrit de la musique, mais j'ai passé 3 ans sur cet opéra, justement parce que je voulais que ce soit, enfin ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais je voulais que ce soit vraiment une œuvre forte, une œuvre...
Oui, quand je dis amusé, c'est forcément léger ou facile.
Pour les auditeurs, ça pourrait être un peu, voilà, ça pourrait être pris d'une façon différente, si vous voulez. C'est un opéra dans lequel... Quelqu'un qui comprend tous ces niveaux de lecture peut être même un peu tétanisé par le message quand même, voyez, parce qu'il y a une réflexion sur le vieillissement, sur l'oubli, sur la mémoire, sur la mort, sur la vie, sur le virtuel, sur le réel. Qu'est-ce qu'est la réalité? On revient au même thème, la Puerta de la Luz qu'on a écouté tout à l'heure, c'est la porte de la lumière. Mais on ne sait pas où est la lumière. Il y a une porte pour nous qui sommes ici. Il y a sans doute une porte puisqu'on rentre et on sort. Mais on ne sait pas où est la lumière. Peter Pan, c'est pareil que la Puerta de la Luz. Je me suis aperçu, je vous disais qu'un compositeur ne doit pas réfléchir sur son œuvre. Mais petit à petit, au fur et à mesure que je vieillis et que j'écris des œuvres, je m'aperçois que finalement, je tourne toujours autour des mêmes thématiques. C'est-à-dire cette porte de la lumière qu'on ne sait pas vers où ouvrir. L'enfance, évidemment, la mort, c'est-à-dire les deux côtés, quoi.
Vous travaillez comme ça, ce rapport entre la vie et la mort, entre l'imaginaire et le réel. Vous travaillez aussi beaucoup, vous avez fait plusieurs œuvres liturgiques,
oui,
qui sont là aussi des rapports entre la vie et la mort, entre le spirituel et le réel.
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez composé plusieurs œuvres. Les 7 dernières paroles du Christ en 1996, Odi Chelum qu'on a écouté au début, un requiem en 2004. La liturgie ne vous effraie pas? Vous avez composé sur des poèmes érotiques et vous composez sur des liturgies?
Écoutez,
la même façon?
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a même, quand j'ai écrit Odi Chelum qui est une prière magnifique à la Vierge Marie. Et d'ailleurs, c'est un texte qui a été utilisé par Monteverdi dans ses Vêpres de la Vierge. Audi Celum, c'est un jeu rhétorique, si vous voulez, sur des phénomènes d'écho. Donc, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est beau, c'est idéal, c'est un hymne à la pureté. Et en même temps, pendant que j'écrivais cette œuvre, quand même, qui dure 23 minutes pour ténor, deux sopranos, chœur, orgue, bon, une œuvre qui m'a pris 8 à 9 mois de travail. Mais pendant que j'écrivais cette œuvre, j'ai eu une commande au même moment de la Péniche Opéra pour son cabaret contemporain. Et donc, j'ai écrit 3 chansons de cabaret extrêmement érotiques. Parce qu'il y a ça aussi, évidemment. Je trouve qu'il y a un côté, finalement, un jeu sur la finesse et la sensualité musicale dans l'érotisme, et qui est un jeu sur le son aussi, si vous voulez, sur le son, sur le sens. Et donc, jouer avec la pureté, avec l'émerveillement de la lumière, c'est jouer d'une certaine façon avec le son et le sens. Et jouer sur la sensualité, le vertige érotique, c'est jouer aussi, vous voyez. C'est vraiment, dans le travail du compositeur, il n'y a pas de différence. En fait, il y en a un texte, qui soit érotique ou spirituel, et on rentre dans le texte et on essaie de travailler la substantifique moelle, on essaie de chercher très loin dans le texte, d'en dire plus que lui et de chercher finalement ce que l'auteur du texte avait dans la tête avant de mettre les mots sur le papier. C'est ça en fait. Une œuvre d'art, elle est toujours préalable. Avant les mots, avant les sons, avant les couleurs, il y a quand même une idée, une énergie abstraite si vous voulez. Quand vous écrivez une musique sur un texte, vous imprégnez du texte de façon à essayer de rattraper cette énergie préalable, cette énergie primale, si vous voulez, et finalement, vous la transcrivez, vous y mettez le son qu'elle nécessite. Et donc, du coup, vous n'illustrez pas du tout le texte, mais vous mettez le son que le texte nécessite dans son état premier.
Alors, quand vous travaillez aussi sur la musique instrumentale, orchestrale, est-ce que votre travail est très différent de votre travail sur le chant? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous inspirez aussi, on va voir avec un extrait du Lac, ce violoncelle au début qui est une ligne de chant?
Oui, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, c'est le texte qui a guidé ça encore une fois, puisque le Lac, c'est le poème de Lamartine. Et Lamartine, quand il commence son poème, il nous prend par la main un peu. On a l'impression qu'il nous parle déjà depuis un petit moment, puisqu'il dit « ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, etc. » Donc, ainsi. Il commence par ainsi. Mais ainsi quoi ? Ainsi que je viens de vous le dire. Voilà. Donc, il nous a montré déjà quelque chose. Donc, le début du Lac, c'est un violoncelle. C'est la voix du poète. C'est la voix de Lamartine lui-même qui nous parle. Et puis, il va nous emporter dans la nuit éternelle, emporter sans retour. Il va emmener avec lui l'orchestre, avec ce violoncelle. Et puis, la soprano va rentrer dedans, dans ce tissu. Et elle va dire, oh Lac, l'année à peine a fini sa carrière. Alors, on va s'y retrouver près du Lac. Et il va retrouver le souvenir de sa bien-aimée. Mais l'idée de ce crampe, de ce très long prélude avec la voix du poète au début, la voix du violoncelle, m'a été donnée par le mot « ainsi » au début du poème.
L'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde, regarde, regarde. Je viens seul m'asseoir sur cette bière où tu l'as vu s'asseoir.
C'était un extrait du Lac, créé en 1999 sur un poème de Lamartine. Là, nous n'avons pas eu le temps de passer l'arrivée de la soprano dans ce morceau. Là, c'est bien une œuvre pour soprano et orchestre.
Absolument.
Vous avez aussi écrit, oui, il faut y venir, de la musique purement instrumentale, la musique symphonique et puis de la musique pour la musique de chambre.
Bien sûr, j'ai écrit beaucoup de musique instrumentale. Vous me posiez finalement la question tout à l'heure de l'idée musicale, qui quand j'utilise un texte évidemment est drainé, être emporté par le texte lui-même, qui est un véritable catalyseur en l'occurrence. Pour l'écriture instrumentale pure, la plupart du temps, c'est l'effectif lui-même qui engendre, c'est l'écoute de l'effectif. Si par exemple vous avez une clarinette, un piano, un violon, bon, ben c'est les images, si vous voulez, sont données par la combinaison du timbre des trois, qui finalement insuffle une énergie. Je parlais de l'énergie première, vous savez, en toute œuvre d'art, ben vous écoutez, on écoute le son, et c'est le son lui-même qui donne une énergie particulière et qui se transmue ensuite en énergie plus précise, et puis qui deviendront ensuite des sons, et puis ça s'organise formellement, etc. Il peut y avoir aussi des contingences plus sans texte, je dirais, mais plus anecdotiques, comme par exemple une pièce symphonique que j'ai écrite en 5 parties, sphères, et qui sont les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc le premier, c'est la Lune, lundi, Mars, mardi, mercredi, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, Vénus. Et donc j'ai fait un jeu à la fois sur la mythologie, les dieux, déesses, bien sûr, et sur les planètes, c'est-à-dire ces sphères. Parce qu'il n'y a pas que des planètes, puisque j'ai utilisé la Lune, hein, c'est un satellite de notre planète. Mmh. Et donc j'ai utilisé pour le discours musical, si vous voulez, les images drainées à la fois par l'histoire personnelle de ces dieux de l'Antiquité et par la configuration de ces planètes. Jupiter, par exemple, qui est non seulement le dieu des dieux, celui qui plane de façon un peu indifférente sur la pauvre misère qui remue sous ses pieds.
Et j'ai pensé, le jeudi de notre semaine qui
voilà,
plane aussi.
Exactement, c'est vrai. Et je pensais aussi, évidemment, à cette énorme boule de gaz qui est la planète Jupiter, finalement, qui n'est qu'un noyau extrêmement compact, entouré d'une... C'est du gaz, Jupiter. Donc, c'est du vent. C'est pour ça que la pièce Jupiter, elle est impalpable, elle est indifférente, mais en même temps, il n'y a que du gaz. On a une grande plage de cordes qui tient d'un bout à l'autre. Il se passe des choses à l'intérieur, mais on a l'impression qu'on flotte dans du gaz, quoi. Alors que la Lune, au début, par exemple, on pense à l'attraction lunaire, il y a des mouvements ascendants qui nous font voir l'océan, justement, enfin, les fameuses marées de l'océan que la Lune aspire ou n'aspire pas, etc. Vous voyez, donc tout un jeu d'images, à la fois planétaires et mythologiques, qui ont donné la source au matériau musical.
Nous allons écouter Sphère pour terminer cet entretien. Merci beaucoup Patrick Burgand d'être venu. Merci de nous avoir fait entrer dans votre univers musical qui est passionnant. Et vous retrouverez toutes les références biographiques, discographiques sur notre site. Et nous ferons évidemment référence à votre site, Patrick Burgand. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Thank you.